Bonjour à tous, donc, je suis Michael Finel, je suis le cofondateur de Wolt, qui est le cabinet pionnier à Paris sur la transition du Web 2 sur le Web 3. On aborde les choses avec une. On aborde les problématiques avec une approche à la fois technique, stratégique et opérationnelle. Et on a eu la chance, lors de la création de Wolt, de rencontrer Teddy. Teddy qui est, lui, pionnier sur l'univers Web3, l'univers des métaverses. À ne pas confondre du tout, mais il va bien rentrer dans le sujet. Il s'y intéresse depuis 2016. Et aujourd'hui, on a créé cette joint venture entre Wolt et Blackpixel. Wolt, pour les profils développeurs, fait toute la partie front. Blackpixel fait toute la partie back. Et on accompagne ensemble plusieurs sociétés dans leur transformation, dans leur transition. Donc ça va de l'univers du luxe, du retail, de la mode, de l'énergie. Voilà, on a des super choses qui vont arriver très bientôt. Voilà, donc ça c'est pour la global picture de qui on est et ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, à la base, Wolt était un cabinet de conseil spécialisé dans le Web 2. Aujourd'hui, on a une très forte connotation Web 3. Et aujourd'hui, on a la capacité d'accompagner nos clients avec, donc, on a un historique de profil Web 2. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les opérationnels que vous êtes, eh bien, il y a une réelle acculturation à faire pour tous les profils qui ont fait le Web 2 et qui vont continuer à faire le Web 2, que vont être les UX designers, les coachs agiles, les scrum masters, les développeurs, etc. Aujourd'hui, vous avez mis en place une première transformation digitale. Aujourd'hui, il faut accélérer et nous, on est capable, avec Teddy, d'accélérer, donc d'évangéliser ces profils-là aux métiers de demain, que vont être l'UX, UI, 3D créateurs, que vont être les chefs de projet innovation, les experts blockchain, les product owners metaverse, les chefs de projet Web3, toute la partie de développement aussi sur Solidity, etc., etc. Donc nous, on a mis en place en interne chez nous une académie qui permet à tous nos talents de pouvoir être acculturés à toutes ces problématiques et pouvoir derrière transmettre le savoir chez nos clients. Aujourd'hui, on fait partie de European Digital Group. Je ne sais pas qui dans la salle connaît European Digital Group. Ok, Benaïssa connaît bien. Donc aujourd'hui, c'est un groupement de 10 sociétés qui permet d'avoir une proposition de valeur qui est unique en Europe, où on va pouvoir accompagner nos clients sur tous les leviers de l'accélération digitale. Aujourd'hui, Wolt et Blackpixel portent l'offre conseil du groupe. Et ça nous permet à la fois d'avoir cette casquette très artisanale de cabinet à taille humaine. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. Mais si besoin, cette casquette beaucoup plus industrialisée avec tous ces acteurs qui permettent d'accompagner de manière beaucoup plus globale. Voilà. Je vais laisser la parole à Teddy, qui, comme je vous le disais, est en charge de toute la partie back chez nous. Ouvrez grand vos oreilles parce que pour le coup, lorsque je l'ai rencontré, il a vraiment changé ma vie et c'est sincère. Donc voilà, ouvrez grand vos oreilles parce que je pense qu'il est 9h45, à 10h15, votre vision de demain aura changé. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente matinée à tous et puis à tout de suite.
Je connais Michael depuis un petit moment, mais je ne savais pas qu'il allait me faire sa demande là, comme ça en public aujourd'hui. Je suis un peu gêné. Non, je t'embête. Bonjour tout le monde, Teddy Paglia. Que dire ? Moi, je suis un tech geek, je suis un tech nerd même, je dirais, pur et dur. Et j'ai eu la chance de prendre de la hauteur au fil de ma carrière, de gérer des projets d'infrastructure, de product development, service design, business innovation, et puis finalement la transformation numérique. Et le sujet du métaverse, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné en réalité. Pourquoi, en fait, parce qu'on parle de futurisme. on parle de, du moment quand la technologie s'immisce tellement dans nos vies, en fait, dans notre quotidien, dans nos activités, dans nos interactions sociales, tout ce que nous faisons, qu'elle devient indistinguable, je sais pas comment, indistinguable, oh, indissociable, merci, de la réalité. Et quand on arrive à ce point-là, en fait, c'est limite comme si on assistait à de la magie, sans qu'on s'en rende compte. Alors, qu'est-ce que c'est que le métaverse ? Tout le monde entend parler de monde virtuel, de Roblox, Decentraland, de Sandbox. Il n'y a pas de métavers au pluriel. C'est comme si on dirait qu'il y a un Internet au pluriel. Ça n'a pas de sens. Il y a un Internet. Internet, pour ceux qui s'en souviennent, ça veut dire Interconnected Networks. C'est un espace intangible, mais qui est composé de ressources, de bases de données, mais de contenu, en fait, dans lequel on peut naviguer de plateforme en plateforme par un système de réseau interconnecté. Interconnected Networks, qui est devenu Internet, la contraction des deux mots. Donc, une fois qu'on garde ça en tête, et qu'on se dit que l'Internet est la prochaine que le métavers est la prochaine évolution de l'Internet, on comprend que, en fait, métavers ne peut pas se conjuguer au pluriel. Et si le métavers est la prochaine itération de l'Internet, et que le métavers est une expérience augmentée, dans un sens de présence plus accrue, qui merge, qui fusionne l'expérience digitale avec l'expérience physique réelle, c'est que le métavers est composé de l'ensemble de ces expériences, comme l'Internet est composé de l'ensemble des sites web, d'ensemble d'expériences, on va dire, digitales, entre guillemets, qui mélangent les mondes réels et physiques, et qu'on peut naviguer entre ces différentes expériences, qui peuvent être sur des plateformes, en ligne, qui peuvent être des espaces physiques, et là on le voit avec des outils comme HoloLens ou autres, avec la réalité augmentée, en fait. Et le fait de naviguer de manière totalement fluide entre ces différents espaces, en fait, constitue le métavers. Là, c'est la définition technique. Et j'ai une définition qui est plus, je ne vais pas dire existentielle, philosophique, métaphorique, mais qui pour moi colle plus à ce que cela représente. L'Internet a tellement bouleversé la manière dont on vit aujourd'hui que si le réseau s'arrête, le monde s'arrête de tourner. C'est réel. On ne s'en rend pas compte, en fait. Et nous sommes tellement privilégiés parce que nous sommes connectés et qu'on a la possibilité de se déconnecter quand on le veut, qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, on fait partie d'une caste et que le vrai sujet, c'est d'être connecté ou de ne pas l'être. Je ne peux pas imaginer, moi, aujourd'hui, vivre sans Internet. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de ma vie qui disparaît, de services, de produits, la manière dont je travaille, la manière dont je communique avec mes amis, ma famille, qui disparaît. Il y a des endroits sur la planète où les gens n'ont pas accès à Internet, où ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas d'ordinateur. C'est la deuxième caste de la société humaine. Il y a un vrai sujet là, en réalité. Et le métavers, c'est plus le moment dans le temps et l'histoire où les barrières entre le monde physique et le monde réel sont effacées par le truchement de la technologie. C'est pas The Sandbox, c'est pas Roblox, C'est même pas HoloLens, sorry, même si HoloLens est un outil. Mais c'est une nouvelle ère géologique, à la rigueur, où la technologie s'empare de tout. Effet 1, effet corps, avec notre environnement, avec nos vies, avec la nature. Et on arrive à ce degré d'intrication quand on associe certains piliers technologiques qui chacun individuellement peut littéralement disrupter des industries entières. La blockchain peut tout changer. On le voit déjà avec la finance décentralisée. Ça peut aller de l'assurance à la distribution de l'énergie, à l'accès aux données, tout ce qu'on peut imaginer. La réalité virtuelle peut tout changer également. La réalité augmentée, pareil. On a l'intelligence artificielle, dont on parle peu, quand on parle du métavers, mais qui est, je dirais, avec la blockchain, l'un des éléments les plus fondamentaux de ce qui préfigure le monde de demain, qui pointe déjà le bout de son nez. Et notre bonne vieille infrastructure informatique, qui est maintenant dans le cloud, comme on dit, dans le cloud, et avec tout ce qui va avec en termes de device, de périphériques, l'accessibilité, la bande passante, la 5G, bientôt la 6G, etc. Et quand on commence à combiner deux ou plusieurs de ces technologies, on commence à avoir des cas d'usage impensables, il y a de ça quelques années encore, et qui préfigurent, en fait, qui ressemblent à des choses qu'on a vues dans les films de science-fiction. Je vais prendre un exemple tout simple. Chatbot. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un chatbot. Ce sont des données. On nourrit un modèle d'intelligence artificielle, machine learning, qui va recracher des informations quand on va interagir avec le chatbot. Généralement, c'est une interface en deux dimensions, avec un prompt, et on tape notre question. Et on a des réponses qui viennent en rapport avec les questions qu'on a posées. Là, on est dans l'intelligence artificielle, mais au niveau 0, quelque chose, quoi. Alors, quand on rajoute de l'immersivité à ça, c'est quoi le futur du chatbot? Le futur du chatbot dans le métavers, qui est notre futur à tous, en réalité, c'est un avatar qui va pouvoir nous parler, échanger avec nous, et on ne saura même plus faire la différence entre lui et un véritable être humain. Imaginez qu'on soit dans une expérience de réalité virtuelle ou de réalité augmentée à très grande définition, dans 50 ans peut-être. Comment saurez-vous que vous êtes en train de parler à un être humain ou à un avatar si vous avez les HoloLens du futur qui sont des lentilles que vous avez sur votre rétine? Vous ne saurez plus faire la différence en fait. Et ça, ce sont des choses qui commencent déjà à arriver tout doucement dans les expériences immersives, dans les plateformes immersives, telles que celles que j'ai citées tout à l'heure, Facebook Horizon, enfin Meta Horizon, etc., etc. Donc, comprenez que ce n'est pas un espace, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas la blockchain. Le métavers, c'est le moment dans le temps et l'histoire où la technologie efface les barrières entre le monde digital, je dirais même imaginaire, le monde physique, et qui ça transforme notre réalité. On va faire un tout petit peu d'histoire là. Le web 1, il y avait autant de plateformes qu'il y avait de réseaux. Interconnected networks. Et pour avoir accès aux informations, donc aux données, au contenu qu'il y avait sur ces plateformes-là, il vous fallait un accès. Donc le web était décentralisé, c'est-à-dire que chacun était autonome de gérer sa portion du web. Il était orienté plateforme, les portails étaient propriétaires, et vous aviez autant d'identifiants et de mots de passe que vous deviez accéder à des plateformes et du contenu. Là, c'était, on va dire que ça a commencé très tôt, 89, 90, et que l'avènement du Web 2 a commencé 95, 98 avec les premières grosses plateformes et qui ont commencé à unifier en fait l'accès au contenu. Et là, on parle des premiers portails mainstream, grand public, Lycos, va chercher, etc. America Online, de l'autre côté de l'Atlantique, etc., etc. Et l'évolution de ce Web 2, en fait, nous a progressivement amené vers le Web 2, qui est un web social, centralisé, avec des écosystèmes, et plus des plateformes propriétaires, c'est des écosystèmes, c'est-à-dire que vous arrivez sur une plateforme et vous avez accès à toute une gamme de services, produits, d'accès et tout. Sauf que, en fait, votre identité, vous ne la détenez toujours pas. Mais ce qui est pratique, c'est que si c'est une plateforme, un écosystème de plateforme qui la détient, bah du coup, ça vous donne accès limite à tout le web. Et là, on le voit avec le sign-in avec Facebook, Google, etc., etc. Le Web 3, qu'est-ce que c'est ? Il y a une différence entre le Web 3 et le métavers. La différence entre le Web 3 et le métavers, c'est que le Web 3, c'est l'infrastructure socle qui préfigure ce que sera un Internet immersif qui sera autour de nous et on sera dedans. Et on ne fera plus la différence entre ça et la vie réelle. Donc le Web 3, ce n'est pas le métavers, mais c'est le début d'infrastructure de ce qui peut préfigurer le socle de ce que sera le métavers. Et là, on revient à la blockchain, qui est un élément fondamental, et qui permet de décentraliser le Web 2, qui est centralisé aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de Larsen. Ouais, c'est mieux ? Ok. Et est-ce que c'est mieux ? Ouais. Ah oui, bien mieux. Et du coup, où j'en étais ? Oui, Web 3, blockchain-based, notre identité devient notre wallet. Pourquoi ? Parce que le wallet, c'est une espèce de coffre-fort numérique dont on est les seuls à disposer de l'accès et de la clé. Et que plutôt que de se connecter sur une plateforme, on autorise la plateforme à se connecter à notre puits de données, donc à notre identité. C'est un peu ça. Donc le Web 3, il est orienté plutôt utilisateur et donc communauté. Notre identité redevient propriétaire, c'est-à-dire elle nous appartient. Et du coup, en fait, plutôt que d'être tributaire d'une plateforme pour se connecter à des ressources, le fait de détenir notre identité, en fait, nous permet de nous connecter à toutes les plateformes. Il suffit juste de leur ouvrir l'accès. Et je ne sais pas si... Petite question. Combien de personnes ici disposent d'un wallet ? Parfait. Génial. Donc, quand vous allez arriver sur les sites Web3 et commencer à en avoir quelques-uns, vous allez juste avoir l'accès. Connect your wallet. Clic. On clique dessus et qu'est-ce qui se passe ? Tout remonte. Même ce que vous avez glané sur d'autres plateformes. Donc, c'est fondamental de comprendre ça parce que c'est un modèle qui est renversé à 180 degrés. Le modèle est totalement retourné. Là. C'est-à-dire que le modèle de Facebook, Meta, qui génère ses revenus sur le fait de monétiser les data en donnant un accès gratuit, en fait, il devient obsolète dans Web3. Totalement. puisqu'en réalité, votre identité n'appartient plus à Facebook et vous appartient. Et que les datas que vous connectez, enfin, que vous collectez dans votre wallet vous appartiennent. Donc, comment vont-ils générer des revenus puisqu'ils ne possèdent plus votre identité? C'est un véritable sujet. Mais c'est génial aussi pour les marques et les entreprises, hein, parce que du coup, ça change le rapport que vous avez avec votre base clientèle. Mais plus encore, si vous arrivez à être dans le wallet de votre client, vous êtes dans son portefeuille. Vous êtes dans son portefeuille. Et dans son portefeuille, il y a quoi? Il y a toute sa vie. Pas que son argent, Alexis. Toute sa vie. Il y a ta carte d'identité, il y a tout. Ta carte de sport, les photos de tes enfants. Il y a tout, en fait. Et donc, si vous êtes dans ce portefeuille-là, vous êtes au plus proche de votre client. Et c'est un lien qui est inaliénable, que vous pouvez nourrir sur la durée. Et on le voit avec des cas d'usage qui sont super intéressants, qui sont très, très nouveaux, hein, avec les communautés Web3 qui font des airdrops et qui nourrissent au fur et à mesure et qui poussent des trucs dans les wallets de leur communauté, etc. et qui débloquent des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu ce premier token NFT d'identification, en fait, d'appartenance à la communauté qui a été poussé dans le wallet. Et à partir de là, on nourrit le truc et on ne lâche plus jamais. On moutonne le mouton. Donc, comme je disais, en fait, le Web3, c'est la voie vers le métaverse. Ah oui, j'ai bien envie de corriger ce truc-là. On a tellement été traumatisés par le fait de dire la Covid que j'entends la métaverse partout. Moi, ça m'écorche les oreilles, quoi. Je comprends pas. La métaverse, enfin, en français, c'est métaverse. Méta-univers. Il n'y a pas de féminin là-dedans, quoi. Désolé, je suis un peu pointu avec la langue, mais bon. Voilà. Tout le monde dit la métaverse. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, pas au pluriel, s'il vous plaît, et pas au féminin. Mais les académiciens vont se retourner dans leur tombe, quoi. Vraiment. Donc, il y a des éléments qui sont fondamentaux. Il y a une différence entre le Web3 et le métaverse, comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a les éléments qui sont fondamentaux, en fait, quand vous voulez monter des projets Web3. Donc, qu'est-ce qui caractérise vraiment le Web3? Premièrement, la décentralisation. C'est la nouvelle règle. Comprenez que vous ne possédez plus rien. Votre communauté possède tout. Donc vous, vous n'avez pas le choix que de co-construire avec votre communauté. Avant, c'était une option. Ce n'est plus une option. C'est l'évolution des choses, en réalité. Donc, on fait du contenu pour une bonne raison. Pourquoi ? Parce que mais c'est de l'engagement. C'est de l'affiliation, de l'engagement, tout ce qui va avec. Et c'est l'évolution du modèle, mais du relationnel avec notre customer base, quoi, clairement. L'identité numérique, qui est très important, devient fondamentalement une expression de soi. Qui êtes-vous vraiment? Les personnes que j'ai en face de moi? Ou plus encore? La personne avec qui je suis connecté sur LinkedIn? C'est quelle version de vous? Ou alors votre profil Facebook, peut-être? Ou Instagram? Ou TikTok? Vous êtes qui? C'est ça, en fait. Et à partir du moment où on possède notre identité, on décide de ce qu'on veut montrer aux gens. Et c'est important, c'est très important, parce que ça reflète ce que nous voulons que le monde perçoive de nous. Et ça, nous, on est, enfin, moi je suis déjà un peu vieux, mais quand je vois les plus jeunes, je vois mes enfants qui sont ados, ils naviguent avec une telle facilité là-dedans et ils s'identifient totalement à leur extension numérique. Ils voient, enfin, pour eux, il n'y a plus de différence entre ce qu'ils sont dans la vie réelle et ce qu'ils sont dans le numérique. Même si ce sont des personnages différents, ce sont d'autres facettes de leur personnalité et ils embrassent ce va-et-vient incessant et pour eux, c'est naturel, en fait. Ce qui est normal, parce qu'ils sont nés, ils ont grandi là-dedans. La communauté est la nouvelle famille parce qu'il n'y a plus de frontières. La technologie efface la barrière de la géographie, de la nationalité, de l'origine ethnique, de la géographie, et même de la langue. Et il y a des gens qui se sont plus proches et qui construisent leur communauté virtuellement avec d'autres personnes qui sont à l'autre bout de la planète, dont ils sont plus proches que leurs voisins de palier. Comment vous capturez cette communauté en tant que marque? Il y a un vrai sujet là. L'ubiquité, c'est une capacité native. Pourquoi? Parce qu'on navigue d'une plateforme à l'autre, on switch d'une identité à l'autre, on est présent à plusieurs endroits en même temps. La technologie permet ça aujourd'hui et ça va être de plus en plus renforcé dans le métavers. Et effectivement, mais ça on le savait déjà, l'expérience est le nouveau produit. S'il y a un seul slide que vous devez retenir de cette matinée, c'est celui-ci. En haut, on a la courbe B du temps, en fait les données B du temps, de l'adoption d'Internet qui va de 90 à 2000. En bas, celle de la crypto. À droite, le nombre d'utilisateurs. Et en fait, la courbe jaune qui représente la courbe d'adoption de la crypto et la courbe blanche qui représente la courbe d'adoption d'Internet, l'histoire se répète. C'est intéressant. Et là, on en revient au fractal, le nombre d'or, etc. Un tech geek, je veux dire. Je suis un nerd. L'histoire se répète. Et quand on regarde les chiffres, on est au même moment qu'en 98. Ce qu'il faut comprendre là, enlever le mot crypto, crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, oubliez ça. Pensez wallet. En 98, combien de personnes étaient des utilisateurs réguliers d'Internet, avaient accès à Internet? Aujourd'hui, combien de personnes ont un wallet? Donc combien de personnes sont metaverse ready? Ce qui veut dire que la courbe va continuer de croître, même de manière exponentielle. Et en réalité, je vais vous dire, cette courbe est même fausse. J'en discutais il y a quelques temps avec Michael, parce qu'on préparait un pitch pour un client. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, la courbe est fausse. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 98, c'est le même nombre d'utilisateurs. La courbe d'adoption est pareille, mais en termes d'usage, en 98, on était beaucoup plus avancé dans l'usage de l'Internet que nous sommes avancés aujourd'hui dans l'usage de la crypto, de la blockchain. On a autant de gens, mais on est en retard par rapport à l'expérience utilisateur, au déploiement et au cas d'usage. On est aux alentours de 92-95. Et ça, c'est au travail des acteurs du milieu de rendre plus ergonomique, plus sympa, etc. Et ce qui est normal aussi, parce que la population mondiale grandit. Le taux de pénétration du digital est plus fort. Ce qui fait que, en fait, on devrait même, je vais le corriger d'ailleurs, on devrait même décaler la courbe. On est beaucoup plus tôt. Et tout simplement parce qu'il y a plus d'humains aussi qu'à l'époque. Et si vous vous souvenez bien, ce slide est super important. Si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Vous savez dire? La bulle qui a explosé. Donc ne vous étonnez pas que l'actualité chauffe un peu aujourd'hui là, dans le monde de la crypto et du métavers. C'est normal. Ça fait partie du processus. Mais des grosses boîtes qui existent aujourd'hui, notamment Google, a été créée en quelle année? Quelqu'un en sait dire en quelle année Google a été créé? Merci, 98. Et Facebook? 2004. Merci. Je ne parle pas de Microsoft. C'est une race à part avec Apple, etc. Les géants de demain sont encore dans leur garage. Il a fallu, 40 ans à Apple, c'est pour ça que je dis désolé,
pour aller de zéro, d'une capitalisation de zéro à un trilliard, 1 000 milliards, un trillion en français, 1 000 milliards. Il leur a fallu 4 ans pour passer de 1 000 milliards à 3 000 milliards. La courbe, elle est exponentielle. Facebook, il leur a fallu encore moins de temps. Ce qui veut dire que les géants du métavers vont être aussi gros que les big tech d'aujourd'hui réunis ensemble. Et pourquoi ? À cause de ça. Ils ne seront plus dans une verticale. Ils feront tout. Et les possibilités sont infinies. Si Uber, la plus grande société de transport au monde aujourd'hui, c'est Uber. American Airlines a une valorisation boursière de 17 milliards. Uber, 69. Quelles sont les barrières à l'entrée pour rentrer dans le monde de l'aviation ? Le coût d'un avion, un Airbus, 280 ou je ne sais pas combien, c'est plus de 200 millions. Uber ne possède zéro asset physique. Le logiciel est en train de manger le monde, la technologie est en train de manger le monde et ça va s'accélérer. Et Uber transporte plus de personnes que aucune des compagnies aériennes. C'est juste fou. Hein. Et juste pour vous dire que s'il y avait des gens qui vivaient sur Mars ou sur la Lune et qu'ils ont Internet, Uber serait la première compagnie galactique. L'écosystème du métavers aujourd'hui, c'est quoi ? On a l'industrie mais du jeu, qui réunit le jeu sur console, le jeu sur mobile et les jeux en ligne, qui représente à peu près 3 millions de joueurs. 3 milliards, pardon. 3 milliards, c'est un tiers de la planète. Qui joue ici ou qui a joué et qui joue occasionnellement ? Moi, j'ai déjà joué. Je ne joue pas tout le temps, mais j'ai déjà joué. Voilà. Un tiers de l'assistance. On y est. Un tiers des humains. Et ça représente à peu près 180 milliards en 2021, en sachant que la courbe s'accélère et ne fait que de monter. On a les mondes virtuels qui ont représenté à peu près 500 millions en trading, en échange de vente de l'Inde, etc., etc., sur l'année 2021 uniquement. La crypto-économie, alors ça c'est un vrai sujet, 300 millions de clients, utilisateurs, je sais pas, mais comme vous voulez, avec un market cap global, toutes les crypto-monnaies en fait assemblées ensemble ont un market cap de 2000 milliards. Mais ça fluctue tellement que des fois on peut monter à 3, on peut descendre un peu en dessous de 2, mais bon, voilà. Ce qu'il faut comprendre là, c'est aussi important de comprendre ça pour les marques et pour les entreprises, c'est que là en fait, c'est pas pour rien si vous voyez Gucci ou Philippe Plein ou Starbucks accepter des paiements en crypto. C'est quoi la crypto ? C'est de la valeur, malgré tout. Parce que les gens y croient, et pour eux, ça représente de l'argent, de la valeur. Donc, du coup, la valeur de la crypto devient réelle, sauf quand ça s'effondre, parce que plus personne n'y croit. Mais ça, c'est pareil pour tous les stocks. Et on a eu des jeudis noirs ou autres, où la bourse a fait 2008, hein, si vous en vous souvenez. Hein. En fait, on a 2000 milliards qui sont là, quelque part, dans l'espace. Une valeur retenue, mais qui va finir par se déverser dans la vie réelle et dans l'économie réelle. Parce que plus on va avancer, plus il y aura d'utilisateurs qui auront de wallets, et plus ils vont vouloir aussi utiliser les crypto-millionnaires. Prenez le cas des NFT. Pourquoi les NFT ont des prix aussi astronomiques, même si ça a chuté ? Quelqu'un sait dire ou pas ? Rareté ? Spéculation ? Je t'adore. Imaginez un truc, ok ? Je suis un tech nerd. Je mine depuis je ne sais pas combien de temps, et en fait, dans la vraie vie, si je transpose ma crypto en argent réel, je suis millionnaire. Mais en dizaines, en centaines. Et je vois un truc qui s'appelle CryptoPunks, qui représente ma culture geek, ma culture digitale. Et là, je dis « Damn, I want it !» Et donc, j'achète, j'en prends 10, 20, ou même je peux en prendre qu'un. Mais je m'en fous, la crypto, je l'ai eu gratuitement. Allez, envoie-moi ça. Et en fait, comme on est les cool kids on the block, et que les autres, maintenant, veulent faire comme nous, eh bien, ils veulent rentrer dans le game. Sauf qu'eux, ils n'ont pas de crypto. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés de mettre de l'argent réel qu'ils sont récoltés, eux, dans la vraie vie, en fait. Et ils veulent jouer au même jeu que nous, mais pas avec les mêmes armes. Et ceux qui peuvent se le permettre, c'est qui ? Les célébrités. C'est Neymar, qui achète un Bored Ape. C'est Gary Vee, qui achète un crypto, etc., etc. Et du coup, tout le marché de la BDNFT, c'est ça qui explique. Merci pour la réponse, elle est juste géniale, parce que c'est exactement ça, en fait. Donc, il y a 2000 milliards qui sont on the air. Je ne sais pas quel est votre job, mais si vous cherchez à croître, est-ce que vous allez chercher cet argent qui dort, là ? Et on a les NFT marketplaces, qui sont les eBay du métavers, du futur, en fait. Et là, on trouve un peu de tout. OpenSea, il capture à peu près 90% des transactions. Mais on est super tôt. eBay existe encore aujourd'hui ? Non. eBay was a thing back then. Moi, je me souviens, dans le milieu des années 90, c'était eBay, quoi. Amazon, quoi ? Les géants de demain ne sont pas encore là. 15 milliards de market cap, toutes les marketplaces confondues. Et on est à moins d'un million d'utilisateurs actifs. C'est fou, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les millionnaires d'aujourd'hui, si on les transpose dans le métavers, ils sont milliardaires dans la vie réelle. Vous n'avez pas de wallet, vous embarquez pas, vous allez faire partie des citoyens de troisième catégorie dans les 10-20 prochaines années qui arrivent. Et on a les communautés Web3. Et en fait, on a changé d'échelle. Aujourd'hui, les VC ne cherchent plus les unicorns, les licornes. Bored Ape, lancement 30 avril 2021. Je crois qu'au mois de mars, ils ont levé 450 millions pour une valuation à 5 milliards. Moins d'un an d'existence. Je répète, 5 milliards de valorisation en moins d'un an d'existence. On a changé d'échelle. Artifact Studio, Benoît, Sven, ils ont lancé pendant Covid 2020. Ils ont été rachetés par Nike. Pour combien ? J'en ai sûr ? Certains ? Des petits joueurs. T'es sûr ? Il y a quelque temps ? C'est plus que ça. C'est pas plus de 100 ? J'aimerais savoir où vous avez eu l'info, ça m'intéresse. Vous l'avez lu ? C'est Benoît qui te l'a dit ? Les NFT, qu'est-ce que c'est ? Non-fungible token. Un token, dans la blockchain, c'est, ça peut être tout et n'importe quoi. En réalité, c'est un bloc sur la chaîne de blocs, ok ? Pour vous donner une définition imagée d'un truc très technique. C'est un bloc sur la chaîne. Okay ? Donc, quand on rajoute un bloc, ben la chaîne grandit. Okay ? Et dans ce bloc, Ça peut être une information ou alors, on va dire, un nouveau jeton, token, en fait, qui représente la monnaie ou la crypto-monnaie de la blockchain. Donc, ça peut être un Bitcoin, ça peut être un Ethereum, ça peut être un ADA ou tout ce que vous voulez. Et en fait, la différence entre un token fongible et un token qui est non fongible, c'est le caractère unique. Tous les bitcoins sont pareils. Je vous donne un bitcoin, vous donnez un bitcoin, c'est la même chose. Je vous donne un euro, vous me rendez un euro, c'est la même chose. Et en fait, on a trouvé le moyen d'inscrire des informations sur ces blocs, sur ces tokens, et qui les rendent totalement uniques les uns avec les autres. Un NFT, c'est ça. Et il faut le voir comme une capsule dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut. Des propriétés, une identité, des informations diverses et variées, qui fait que ce token devient dissociable de tous les autres. Donc c'est vraiment ça, c'est le meilleur moyen de vérifier, etc. etc. avec toute la sécurité qui est autour de la blockchain et tout ce qui est avec. Le nouveau modèle, ce n'est plus le direct to consumer, c'est le direct to avatar. Parce que nos avatars représentent l'extension de qui nous sommes dans la vie numérique. D'accord ? Et que si j'ai envie de m'acheter un nouveau costard, une nouvelle paire de baskets, pourquoi je ne le ferais pas à travers mon avatar ? C'est le modèle de Artifact et d'autres. Et ces avatars, plus on va avancer, plus ils vont nous représenter, soit ils seront plus réalistiques, et rien ne m'empêche de designer mon avatar, une belle blonde scandinave, 1m90, 75, parce que c'est comme ça que je me projette, et c'est peut-être ce que j'ai envie de montrer. Là, c'est super intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai un ami qui a une fille qui a 11 ans, et qui joue à Fortnite. Elle est accro de Fortnite, elle joue tout le temps. Et elle a 5 personnages différents, elle a 5 skins. Et en fait, 2 filles et 3 garçons qui représentent les différentes facettes de sa personnalité. Si vous devez faire un persona marketing basique, comment vous faites ? Vous targetez qui ? Même les identités ont changé. Donc, le direct to avatar change le game radicalement. Parce que là, c'est une connaissance plus approfondie de la personne, de ses patterns, behavior, réflexion et tout ce qui va avec, ce qui constitue son identité. Votre site web, est-ce qu'il a votre point ETH ? Les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai la haine. Parce que je fais des articles dans Vogue et tout ça, machin truc, j'évangélise à mort, mais blackpixel.eth, je ne l'avais même pas acheté. Et il y a un salopard qui l'a acheté le mois dernier et maintenant il me le revend à 10 Ethers. J'ai envie de l'étrangler. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est quand vous voulez être sûr d'acheter un truc aux Galeries Lafayette ou chez Nike, vous avez nike.com, galerielafayette.fr.de, you know. Parce que c'est là, enfin, vous êtes sûr que c'est Galeries Lafayette, quoi. Ils ont acheté leur nom de domaine, c'est eux. Vous n'avez pas votre point ETH. Comment est-ce que vous allez pouvoir vendre des biens digitaux tokenisés ? Avec votre adresse H, là, 0XE, machin, blablabla. Personne ne va retenir ça. C'est trop compliqué. Votre point ETH, il est où ? Et en fait, c'est le nouveau point com. OK ? Et il y a un vrai business autour de ça. En fait, c'est Internet Reloaded. On repart à zéro. Comme dans les années 90, comme il y avait des petits malins qui ont fait un business de racheter du.com en avance de phase. Et je travaille avec les marques, la direction juridique et tout, et ça, c'est un des grands sujets, quoi. C'est un grand sujet. Gucci a eu à racheter son .eth, là, il n'y a pas longtemps. Quelques semaines. Donc, dépêchez-vous, traînez pas. Ça coûte pas cher et c'est fait. Les chiffres du métaverse, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Je ne vais pas dire un faux sac parce que ça n'a pas de sens. La version digitale de ce sac, le Dionysus Bag, il a été vendu dans Roblox. Roblox, c'est un jeu. C'est un jeu pour enfants, moi, je trouve. Parce que moi, j'aime bien les designs un peu aboutis, tout ça. Ou alors, donne-moi un Minecraft, mais Roblox, tu vois, c'est pas ma génération. Moi, ça me parle pas. Le truc, il a été revendu pour 4 000 $. Plus cher que le sac dans la vraie vie qui est à 3 500 ou 3 700. What the fuck? Pourquoi? Parce que c'est le nouveau flex, quoi. Parce que je veux avoir dans le monde numérique ce que j'ai dans la vie réelle. Et si je ne peux pas avoir ça dans la vie réelle, au moins dans le monde numérique, je l'ai. Comme on arrange nos profils Instagram ou LinkedIn pour nous présenter sous notre meilleur jour. Très important. La première maison dans le métavers a été vendue sous forme de NFT. J'adore Krista Kim, je trouve qu'elle est formidable, elle a fait plein de collaborations avec Lamborghini, 8 ans et tout. Jetez un œil sur ce qu'elle a fait. En mars 2021, $500 000. Dépêche-toi, mec. Il y a de l'argent à se faire. Traîne pas trop. $500 000. Donc, il y a tout un nouveau domaine, en fait, qui est les espaces immersifs. Et c'est super important parce que si vous êtes une marque et que vous avez la possibilité, ou même une entreprise en fait, de vous incarner dans un monde immersif, comment représenteriez-vous votre marque ou votre entreprise? Et là, la notion de mission d'entreprise redevient fondamentale. Vous savez, les entreprises à mission, vous n'aurez plus le choix. Je vous ai expliqué pourquoi. On est dans une maison de marketing ici, une place forte de marketing même, je dirais. Au sens noble du terme, bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous devez vous incarner dans quelque chose de tangible, d'expérientiel, ça va ressembler à quoi? Une maison sur Mars? Le Sahara? Le pôle Nord? La forêt tropicale? Les avatars qui peupleront cette expérience et cet univers, ils ressembleront à quoi? La personne qui va accueillir vos clients, il sera noir, blanc, asiatique, il aura un accent ou pas, ce sera un homme, une femme. Comment représentera-t-il votre société? Quand je parle d'avatar, excusez-moi, c'est le chatbot, hein, incarné. Vous voyez? Et tout ça constitue à l'expérience que votre communauté va ressentir quand ils vont visiter votre espace d'enceinte internet immersif. Et pour répondre à ça, à comment vous allez designer cet espace immersif, vous allez devoir répondre à la question de qui vous êtes au-delà de la relation commerciale et transactionnelle avec votre client. Quelle est votre identité? Quel est votre ADN? Et comment vous la représentez? Pour exister dans un Internet incarné, les marques n'auront plus le choix que de répondre à cette question. CryptoPunk, 23 millions, on a déjà parlé. Beeple, 70 millions, tout le monde a entendu parler. Les infos qui sont également très importantes, c'est que ce marché, en fait, et je trouve qu'il est sous-évalué, Morgan Stanley, qui est l'une des plus grandes banques au monde, c'est elle qui donne aux nations, aux États, la note AAA ou AA-B, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est... Bon, même si c'est Magouille et compagnie. Salut McKinsey. Et en fait, c'est que ils estiment le marché des biens digitaux dans le domaine du luxe à 50 milliards d'ici 2030. Je trouve qu'il est sous-évalué. Bloomberg Intelligence, quand même. Bloomberg, c'est la machine à news de toutes les grosses boîtes du CAC 40 et du SP500. Et en fait, ils estiment déjà le marché global du métaverse, c'est-à-dire device, plateforme, expérience, les biens digitaux, les NFT, etc., à 800 milliards en 2024, d'ici 2 ans. Vous êtes où? Allez chercher cet argent. Donc voilà, merci.